superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Alors, il y a des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Vladimir doit pas aimer ça.
Il n'aime pas du tout ça. Il y a eu des attaques sur deux bases aériennes, très à l'intérieur de la Russie. On est dans un cas à 180 kilomètres au sud de Moscou. Ce sont des bases qui sont situées à Ryazan et à Saratov. Et alors, que ces bases aériennes aient été attaquées en soi à l'intérieur de la Russie, c'est déjà une catastrophe pour l'armée russe, parce que ça a été attaqué par des drones. Pense-t-on ukrainien? Peut-être que c'est des vieux drones russes qui étaient là, tu sais, au moment où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, donc des drones d'avant de 1980, mais c'est pas clair. Mais c'est des drones qui sont très lents, dans tous les cas, qui volent à basse altitude et qui, normalement, sont faciles à arrêter. Alors, non seulement ils sont rentrés, ces drones, à l'intérieur du territoire russe, très en profondeur, mais en plus, ils ont attaqué deux aéroports où sont stationnés, figure-toi, des bombardiers nucléaires russes.
Eh hey boy.
Oui, il n'y a pas beaucoup de bombardiers nucléaires russes en plus, et ils n'ont pas été arrêtés. Alors, les Russes disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il que vous n'ayez pas protégé, d'ici là, leur armée, davantage ces aéroports? Et tout le monde se pose la question. Alors, ou bien l'armée russe est particulièrement incompétente, ce qui n'est pas exclu, je te dis, ou bien ça peut être les deux en fait, ou bien il y a une partie de l'équipement qui devait normalement servir, qui devrait normalement servir à protéger ces deux aéroports, qui a été amené, qui a été apporté en Ukraine parce que les Russes manquent d'équipement. Mais on est dans ce genre de conjecture en ce moment, et ça fait très mal paraître l'armée russe.
Et pendant ce temps, qui se ressemble, s'assemble?
Ah ben
la
oui.
Chine et l'Arabie Saoudite.
Bien sûr. Xi Jinping qui arrive demain en Arabie Saoudite, qui va rencontrer Mohamed Ben Salman. Et donc, les deux vont en fait participer à un grand sommet sino-arabe qui commence vendredi. Donc, Xi Jinping arrive deux jours avant pour diverses rencontres bilatérales, bien sûr avec des partenaires d'Arabie Saoudite, mais aussi du monde arabe autour. Et il y a beaucoup d'argent qui va se brasser. On dit qu'il va y avoir des douzaines d'ententes qui vont être signées entre l'Arabie Saoudite et la Chine, tant dans le domaine financier qu'industriel, des routes de la soie, etc. Et il faut savoir que la Chine est devenue le premier client de l'Arabie Saoudite en termes de pétrole. L'Arabie Saoudite exporte chaque année quelque chose comme 57 milliards de dollars vers la Chine. Et en contrepartie, bah, la Chine n'exporte que 13 milliards de dollars vers l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un des rares pays au monde qui a une balance commerciale positive avec la Chine. Mais donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver là. Et en fait, le fond du problème est ce que je te disais, c'est cette question du pétrole qui est exporté principalement vers la Chine. Mais la Chine n'a pas de base militaire dans la région. La Chine n'a pas, semble-t-il encore, de capacité de projection militaire. Et c'est ça qui est embêtant pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, bien sûr, vend son pétrole à la Chine, mais la Chine ne peut pas protéger le pétrole qui vient d'Arabie Saoudite. Le pétrole d'Arabie Saoudite, c'est 18% de tout le pétrole qui est consommé, qui est importé en Chine. Donc c'est beaucoup. Et ça montre ici le problème aussi que la Chine a dans son équilibre mondial. C'est-à-dire que elle a, oui, des intérêts économiques énormes un peu partout à travers le monde, mais contrairement aux Américains, elle n'est pas nécessairement capable de protéger ses intérêts économiques. Donc, militairement, j'entends. Donc, ça va être à suivre.
Bon, ben ça, quand on voit ça, hein, ces mariages arrangés entre la Chine puis l'Arabie Saoudite, ben ils se méritent de toute façon. L'Indonésie qui criminalise des relations sexuelles hors mariage.
Oui, alors parlons de mariage, l'Indonésie, qui était vraiment au cœur du sud-est asiatique. On n'en parle pas souvent et on devrait en parler plus souvent parce que c'est quand même un pays important qui a quoi 250 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et alors, Ce pays avait déjà fait parler de lui en janvier dernier parce que, figure-toi que dans la province d'Aceh, qui applique la charia, on avait décidé qu'un couple adultère devait recevoir des coups de fouet. Et alors, on a décidé de donner 100 coups de fouet à la femme adultère et 15 seulement à l'homme adultère. Parce que, bien entendu, c'est la femme qui est la tentatrice là-dedans.
Hein. Oui,
le pauvre homme. C'est toujours ça, la logique religieuse. Donc, l'homme, lui, 15 seulement. Bref, en fait, ce qui se produit, c'est que dans ce pays, qui est majoritairement musulman, les musulmans fondamentalistes prennent de plus en plus de place. Et ils ont fait voter une nouvelle loi qui rend passible d'un an de prison quiconque a des relations sexuelles hors mariage. Alors, ça s'applique pas seulement aux Indonésiens, mais ça s'applique aussi aux touristes. Les gens qui vont à Bali, par exemple. Donc, les gens qui vivent ensemble depuis, je sais pas, moi, 20 ans, mais qui sont pas mariés, et qui décident d'aller à Bali ou d'aller en Indonésie, théoriquement, pourraient se faire arrêter et faire un an de prison parce qu'ils sont pas mariés. Il y a beaucoup de gens qui trouvent
même, même les touristes, là.
Ben oui!
Wow.
Ben oui, c'est aussi bête que ça.
Ouais.
Et encore plus si les touristes s'imaginent s'il y a une idylle amoureuse entre des touristes et des gens du pays. Alors là, c'est encore pire.
Eh hey boy, on va te chasser avec un sabre
dans du pays. Un an de prison, tout de suite.
Ah ouais, c'est fou.
Mais attends, il y a plus que ça. Moi, c'est cette nouvelle-là qui m'a attiré. Tu sais, j'ai été dire là-dessus. Il y a plus que ça. Figure-toi que dans le même projet de loi, il est interdit d'insulter le président ou toute institution de l'État. Là, tu dis, comment ça interdit d'insulter le président? Tu sais, ça, c'est le genre de loi à interprétation très, très large.
Ouais, hein?
Et n'importe quoi peut devenir une insulte du président ou de l'État. Là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je lis plus loin encore. C'est aussi interdit, ce sera interdit, de diffuser des opinions contraires à l'idéologie de l'État. Ben là...
Mais
en d'autres termes,
pourquoi ils disent pas ce qui est, pourquoi ils disent pas juste ce qui est permis? Ça va être moins compliqué.
Oui.
Ça va être moins long parce qu'ils interdisent bien les choses.
J'aime ton côté qui est pratico-pratique.
Ah, merci. Hein. Je suis là pour aider. Ah bon, OK. L'Indonésie, c'est tout, là? On va...
On peut tourner là-dessus.
Ouais, c'est parfait. Et le deuxième tour des élections sénatoriales en Géorgie, ça, c'est intéressant.
Oui, on suit ça. C'est aujourd'hui. Il y a 7 millions d'électeurs qui sont appelés à voter. On se souvient que en Géorgie, ça prend absolument 50% plus 1 des voix pour élire des sénateurs. Il n'y avait pas eu ça aux élections de mi-mandat. Donc, il y a deux candidats qui restent, les deux premières, Raphaël Wachnock et R.C. Walker, qui restent en liste. Le démocrate, donc, qui était sénateur, c'est lui qui avait le poste. On s'attend à ce qu'il soit réélu. C'est un preacher baptiste. Et l'autre, c'est un joueur de football très connu. On attend les résultats. Normalement, les démocrates devraient gagner leur siège et devraient conserver leur siège. Ce qui leur donnerait au Sénat une majorité de 51 contre 50, ce qui serait très utile contre des supposés sénateurs des démocrates comme Joe Manchin, qui, comme tu le sais, vote toujours du bord des républicains. Enfin, ou très souvent, côté républicain.
C'est aberrant. On ne sait plus ce qui arrive. On en a parlé un peu, là, mais penses-tu que Donald Trump va créer son propre parti?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il s'en va vers ça. De toute façon, c'est toujours la menace qu'il a laissée. D'abord, je pense que c'est lui qui va avoir l'investiture du Parti républicain. Parce que je pense qu'à l'intérieur du Parti républicain, il a mis ses hommes un peu partout à des postes clés et que les gens qui votent à l'intérieur du parti pour la personne qui va les représenter au présidentiel, ce sont des gens à lui. Donc, je pense que les autres candidats ont très peu de chance, et c'est ce que les sondages montrent, ils ont très peu de chance face à Donald Trump. Mais si jamais ça tournait mal pour Donald Trump, bien sûr qu'il va créer son propre parti. Et ça, ça fait partie justement des leviers qu'il utilise à l'intérieur du Parti républicain contre ceux qui voudraient pas qu'il ait l'investiture, parce qu'il dit, tu voulais pas que je sois nommé président? Très bien, ce sera pire alors pour vous. Je vais créer mon propre parti. Alors, les gens finalement sont à l'intérieur du Parti républicain, ceux qui ont encore une tête sur les épaules, sont obligés de choisir entre le moindre sont obligés de choisir le moindre mal et doivent se dire ben si on n'élit pas Trump là, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que Trump va créer son propre parti et qu'il n'y aura plus aucun républicain qui va se retrouver au Congrès. Ça va être une catastrophe complète.
Bon ben écoute, on se laisse là-dessus. C'est toujours d'excellentes nouvelles en politique internationale.
Excellente nouvelle parce que ça va mal pour les républicains. Il y a personne qui, tu sais, il y a une grande différence entre les républicains dans le parti qui votent pour l'investiture et les républicains moyens et surtout les électeurs indépendants. Parce qu'aux États-Unis, ce qu'on a vu aux élections de mi-mandat, c'est que Trump faisait peur. C'est que les républicains radicaux font peur et donc les électeurs se détachent d'eux, vont pas vers eux, malgré toutes les manipulations que les républicains peuvent faire dans tous les États avec le gerrymandering, avec les dépenses, etc.
Mais et là, tu as la frange vraiment aussi très à gauche du Parti démocrate. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer, là, autant du côté des démocrates que des républicains, où on va trouver un centre commun.
Peut-être, mais eux, c'est chez les démocrates, les gens qui sont radicaux, ils tiennent pour le moment tranquille parce qu'ils ont le pouvoir.
Ben oui.
Donc ils sont contents. Évidemment, ils poussent en coulisses pour faire passer toutes sortes de projets de loi. Mais c'est vrai que c'est un boulet pour le Parti démocrate parce que c'est très facile pour les républicains de les étiqueter comme des woke, et ce sont des woke bien souvent, ces radicaux. Et c'est ça qui empêche souvent des gens de aux États-Unis, des électeurs de voter pour les démocrates.
Mm-hmm.
Donc, eux aussi, effectivement, ont leur aile radicale.
Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. À demain.
Salut.